J'avais quelque chose à dire à Alex et Maritza, mais ils sont partis. Ah, elle revient. Donc, avant de commencer, je voulais m'adresser à vous deux, Maritza, à Alex est parti. Juste en vous partageant deux petites clés pour... Bonjour, Alex. Je voulais partager deux petites clés pour élever nos enfants dans les voies du Seigneur, qui sont tellement importants. Le premier, c'est d'enseigner à nos enfants qu'ils sont créés, vos filles sont créées pour entendre la voix de Dieu et transmettre cette foi à vos deux filles, ok? Tellement important. On est capable d'entendre la voix de Dieu. Il nous parle, il veut nous parler. Et c'est une clé importante. Deuxième clé, il faut écouter mon message. Excusez. Ouais, voilà. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent, probablement vous pouvez deviner que moi, j'aime beaucoup les biographies missionnaires. J'en ai des dizaines sur mes tablettes à la maison. Je les ai lues à mes enfants à plusieurs reprises. J'y retourne encore et encore. Pourquoi je les aime autant? Et c'est des bonnes histoires, pleines d'aventures, pleines de risques, intrigues, persévérance et miracles. Ça, c'est juste un peu. Et j'en ai apporté quelques-uns aujourd'hui. Ils sont en anglais, je m'excuse. Mais si vous voulez les prêter, vous pouvez. Gladys Aylward, une femme qui a été rejetée par tous les organismes missionnaires, qui ont dit qu'elle n'avait pas l'intelligence pour apprendre une deuxième langue. Elle est allée en Chine et à la fin de sa vie, les Chinois disaient qu'elle parlait chinois mieux qu'eux. C'était incroyable, mais elle a persévéré plein de choses tout autour de la Deuxième Guerre mondiale. Mary Slessor, qui a changé le Niger, le pays qu'on connaît aujourd'hui comme Niger. Lillian Trasher, d'autres histoires magnifiques, pleines de miracles pendant la Deuxième Guerre mondiale en Égypte. En tout cas, il y a plein d'histoires et c'est très, très intéressant. Une deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le Noël. J'aime la neige, les lumières, la cuisson, les temps et les traditions en famille, les cadeaux, la musique, tout. C'est un temps magnifique, n'est-ce pas? J'aime même la neige qui arrive en novembre, comme cette année. Moi, je ne me suis pas plaignée comme tout le monde, mais moi, je l'aime vraiment. Mais comme vous savez, la façon qu'on célèbre Noël dans notre société a très peu à voir avec le récit biblique de Noël. Mais même dans l'Église, des fois, on passe à côté de la vraie signification de Noël. En fait, Noël n'est pas principalement une question de paix et de joie, même si ça en fait partie. Noël est à propos de la mission de Dieu envers l'humanité pour le sauver. Et l'histoire de la venue de Jésus est peut-être la plus grande biographie missionnaire jamais racontée. Et j'aimerais que nous examinions l'histoire de Noël sous cet angle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait de Jésus un si grand missionnaire? Et comment pouvons-nous imiter l'exemple qu'il nous a donné lors de l'incarnation? Quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Comment est-ce qu'on applique cet enseignement à nos vies? Regardons ensemble ce qui faisait de Jésus un missionnaire et un aussi bon missionnaire que ça, comme raconté dans l'histoire de Noël. J'ai quatre aspects que je veux qu'on réfléchisse sur lesquels je veux qu'on réfléchisse ce matin. Okay? Donc, premièrement, c'est la stratégie. Le Dieu trinitaire était très stratégique et avait bien planifié l'envoi de Jésus sur la terre. Dieu n'a pas pensé tout d'un coup ou par hasard, « Oh, les anges, qu'est-ce qu'on va faire? Les choses ne passent pas si bien sur la terre. Jésus, voudrais-tu être envoyé sur terre pour aider les humains? » Pas du tout. Au contraire, nous voyons que la prophétie du plan de Dieu était déjà faite lors du premier péché en Genèse 3, 15. Écoutez bien. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Comme vous savez, ce passage parle de Satan qui est le serpent. Il a blessé le talon de Jésus par la crucifixion. Mais nous savons si bien que Jésus était celui qui a écrasé la tête du serpent quand il est mort et quand il est ressuscité de la mort, afin de nous racheter de la domination du royaume des ténèbres, renverser les conséquences du péché d'Adam. Il est remarquable, n'est-ce pas, que Dieu avait déjà ce plan en tête pour le monde dès le premier péché. Et Dieu a déclenché ce plan avec Abraham. En Genèse 12, 2, il lui donne une grande promesse qui serait accomplie en Jésus quelques centaines d'années plus tard. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Avez-vous remarqué cette dernière phrase? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En créant la nation d'Israël par la descendance d'Abraham, Dieu a créé le contexte dans lequel le Messie sera éventuellement envoyé pour le monde. Et même si Israël réclame ses promesses pour eux, ce qui est vrai, nous voyons aussi ici que c'était le plan de Dieu que toutes les familles, lisons toutes les nations du monde, sera bénies par lui. Cette promesse est répétée à plusieurs reprises, à Isaac et Jacob un peu plus tard en Genèse, au peuple Israël en Exode et dans les prophètes. En effet, une version de l'appel d'Abraham est répétée plus que 300 fois dans la Bible. Et nous pouvons clairement retracer à travers l'Ancien Testament l'intention de Dieu que le Messie soit envoyé, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour la terre entière, que chaque nation, chaque peuple en bénéficie par l'appel d'Abraham. Une autre facette de l'histoire de Noël dans laquelle nous voyons la stratégie de Dieu est l'arrivée de Jésus pendant le temps des Romains. Nous n'avons pas vraiment le temps ce matin d'aborder une étude historique concernant ceci. Mais si vous faites des simples recherches à l'Internet, vous pouvez lire des articles qui discutent le pourquoi que l'époque de l'Empire romain était un temps propice pour la bonne nouvelle de se répandre dans le monde. Aujourd'hui, je veux simplement souligner ce que Galates 4:4 nous dit. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. C'était le temps parfait de Dieu. Il a tout planifié. L'arrivée de Jésus comme bébé était soigneusement planifiée jusqu'au dernier détail. Un plan stratégique de Dieu pour sauver le monde. un plan qui accomplissait ce que Dieu a dit à Ève dès que le péché est entré sur la terre et qui est toujours en place, en déroulement, jusqu'au deuxième retour de Jésus. Il y a une deuxième raison pour laquelle Jésus était un si bon missionnaire. Il s'est étroitement identifié au groupe de personnes qui souhaitaient atteindre avec son message. Je retourne ici aux biographies des missionnaires pour vous aider à comprendre un peu. Dans les histoires que j'ai lues, les missionnaires qui se démarquent le plus sont ceux et celles qui s'identifiaient si bien avec les personnes qu'ils essayaient d'atteindre qu'ils ont abandonné leur propre pratique culturelle pour devenir comme les gens, apprendre leur langue, manger leur nourriture, porter leurs vêtements, vivre dans des maisons comme eux. Souvent, c'était même difficile pour eux où ils étaient critiqués par les gens de leur propre culture. Jean 1, 14 nous dit concernant Jésus, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La version de la Bible, The Message en anglais, le dit d'une façon que j'aime beaucoup. Ça dit, la parole devient chair et sang et s'installa dans le voisinage. Il a pris la chair, il est devenu un juif dans tous les sens. Prenez un moment et émerveillez-vous avec moi. Celui qui était la parole, qui avait créé l'existence de l'univers par ses mots, par la puissance de ses mots, est devenu un bébé sans la capacité de parler. La parole devait apprendre à parler comme toi et moi sur les genoux de sa mère. Celui qui a créé les éléments de la terre, les lois physiques de la nature, est devenu sujet à ces mêmes éléments et lois. Il était fatigué. Il avait faim, soif, froid, chaud. Il a transpiré. Il a saigné comme toi et moi. Ça lui faisait mal s'il grattait les genoux. Il mangeait comme un juif. Il se disciplinait même en tant qu'ado et jeune adulte pour apprendre un métier. Toutes ces choses afin d'identifier avec nous les humains. Il était même tenté comme un être humain. La Bible nous dit qu'il n'a jamais péché, mais il a dû subir les conséquences du péché. Le mal, la tristesse, l'angoisse, les jugements des autres et la tentation. Ne croyez jamais le mensonge que Jésus n'était pas pleinement humain. Il n'était pas un super-héros dans un corps humain. Non, il était pleinement homme, rempli de l'esprit. Il était Dieu dans tous les sens, mais par un amour immense et d'une humilité profonde. Il est devenu comme nous. Paul le dit de cette façon en Philippiens 2, qu'on connaît si bien. Écoutez ces versets. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Je ne m'intéresse pas ici aux raisons théologiques pour lesquelles Jésus devenait comme nous afin d'être un sacrifice acceptable pour payer le prix de notre péché, bien que cela soit important et vrai. Ce que j'essaie simplement de vous communiquer ce matin, c'est ça, le fait merveilleux qu'il est devenu comme toi et moi par un immense amour pour nous atteindre avec son message, afin que nous puissions voir et toucher la gloire de Dieu. Il est devenu comme moi, afin que moi je puisse devenir comme lui. C'est incroyable. Une troisième raison qui rend Jésus et l'histoire de Noël une si bonne biographie, histoire missionnaire, c'est que l'histoire est pleine d'intrigues et de risques. Nous sommes à l'autre côté maintenant. Donc, peut-être on pense, ah, est-ce que c'était vraiment si plein de risques que ça? Mais je crois qu'il y avait des risques réels dans l'histoire de Noël. Nommons quelques-uns ensemble. Une grossesse non désirée d'une adolescente non mariée dans une époque où l'adultère pouvait mener à lapidation. Jésus naît dans un ère où Israël était gouverné par un pouvoir autocratique. Naissance d'un bébé dans une étable pleine de microbes et virus sans intervention médicale. Et la présence d'Hérode, un souverain assoiffé de pouvoir et de peur que quelqu'un prenne sa place. Regardons ensemble l'histoire de Joseph, Marie et Jésus lorsqu'ils se sont enfuis pour sauver leur vie, comme on le voit en Matthieu, suite à la visite des mages. Écoutez, lorsqu'ils, les mages, furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Réveillé la nuit, un ange n'a pas dit « Préparez-vous, la semaine prochaine il faut partir. » Il dit « Réveillez-vous, partez maintenant. » La nuit même, Joseph et Marie se sont levés pour fuir pour leur vie. Je crois qu'il y avait des risques réels. Et l'importance pour moi, c'est qu'on réfléchisse un peu plus tard dans ce qu'on va faire ensemble ce matin. Contempler les risques que Dieu a pris en envoyant Jésus ici, parce que je crois sincèrement que ça serve pour nous comme exemple. Comment il veut que nous agissons pour atteindre ce monde avec le message de Jésus. Finalement, l'histoire de Jésus est miraculeuse et surnaturelle. Comme vous savez si bien, l'histoire de la naissance de Jésus est pleine de moments miraculeux, n'est-ce pas? Des songes, les anges, la prophétie. Voilà la partie de Noël que l'on connaît si bien, qui captive nos imaginations. Et ça fait partie de la magie de Noël, je crois, une magie réelle de Dieu. Je veux simplement souligner que Dieu agit d'une manière surnaturelle à plusieurs reprises dans cette histoire. Et ce que je remarque dans les biographies missionnaires, c'est que c'est souvent le cas aussi. Donc, on va discuter ça encore un peu plus tard. Mais je veux vraiment prendre le temps ce matin de commencer à réfléchir comment est-ce qu'on applique ces choses à nos vies. C'est les choses que j'ai nommées, vous savez probablement. En gros, n'est-ce pas? Ce n'est pas des nouveautés pour vous. Mais comment est-ce qu'on prenne cet enseignement pour dire qu'est-ce que ça fait dans mon quotidien? Mais avant d'embarquer dans cette partie, je veux clarifier quelque chose. Certaines ici peuvent dire, parce qu'on va parler de la mission, évidemment, être missionnaire, ce n'est pas mon appel. Donc, on ferme les yeux et les oreilles, et on n'écoute plus. Mais oui, il y a un appel spécifique pour certaines personnes qu'on appelle dans notre langage chrétien des missionnaires ou des apôtres. Ces personnes sont appelées de traverser des barrières culturelles assez importantes afin de partager l'Évangile avec ceux et celles qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Et ils ne vont jamais avoir cette opportunité, sauf si quelqu'un vient envers eux. Et il y a même des personnes ici ce matin qui ont cet appel. Il y en a dans chaque église locale, je crois. Donc, soyez ouvertes au Saint-Esprit. Peut-être vous avez cet appel et vous ne le savez pas encore. Mais même si vous n'avez pas cet appel, nous sommes tous appelés à aller dans un sens ou dans un autre. Nous traversons l'océan, nous traversons la rue, nous traversons la salle. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le mouvement, c'est nous envers eux. Si on veut suivre l'exemple de Jésus, lui, il est venu vers nous et maintenant, il nous envoie vers les autres qui ne le connaissent pas encore. Nous pouvons tous devenir ce que j'appelle missionnels. Ce que je veux dire par ce mot inventé, c'est que nous pouvons adopter la posture, les attitudes, comportements comme le ferait un missionnaire, afin d'atteindre les personnes autour de nous avec la bonne nouvelle. Paul a écrit aux Corinthiens d'une façon vraiment claire. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi afin de gagner à Christ si ceux qui n'ont pas la loi. C'est ainsi que je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Dans ce sens, cet enseignement est pour nous tous. Donc, regardons un peu plus près comment nous pouvons appliquer à tout cela dans nos vies quotidiennes. J'aimerais vous donner quelques possibilités pour des prochains pas et peut-être avoir un petit temps de discussion si on a le temps. Premièrement, pour la stratégie. Des fois, on pense que vivre dans l'esprit, c'est juste par la spontanéité. Ça, c'est très important. Oui, des fois, le Saint-Esprit va nous complètement diriger autrement. Mais ça ne veut pas dire que la bonne planification et une bonne réflexion n'est pas de Dieu non plus. Donc, j'aimerais vous encourager de prendre les opportunités qu'on a pour réfléchir, pour penser, pour planifier, afin que nous soyons des individus, mais aussi une église qui atteigne notre communauté pour Jésus. J'aimerais juste vous mentionner quelques opportunités parce que c'est important d'avoir quelque chose de pratique. Ça va être pas la première fois que vous m'entendez parler, mais il y a un cours qui s'appelle Kairos. On a quelques personnes dans l'église qui l'ont déjà suivi, Francine, ma mère, Timothy, les Kenzo aussi, je crois. Très important de comprendre tous les plans de Dieu pour le monde. Et par un simple cours qui donne une base biblique, historique et stratégique, on peut commencer à déjà penser différemment. Pourquoi on est là? Comment on rejoint? Pas que Dieu a un plan pour ma vie, mais Dieu a un plan pour le monde et moi, je le rejoins dans son plan pour le monde. C'est un peu différent. Des fois, on parle, « Oh, Dieu a tout ce plan pour moi. » Oui, c'est vrai, mais il y a un autre côté qui est un peu différent que ça. Dieu a un plan. Le plan stratégique qu'il a mis en place dès le premier péché en Genèse, qui continue aujourd'hui. Donc, comment est-ce que moi, je rejoins à son plan? Comment est-ce que je élargis mes idées et mes pensées, ma connaissance de la Bible afin de bien agir et être un bon disciple? Donc ça, c'est une idée. On va avoir un cours qui, on espère, un peu plus tard, vers fin mars. Donc je vais vous donner d'autres informations quand on a les dates exactes. Mais si vous voulez plus d'informations, viens me voir. Une deuxième chose, c'est d'apprendre à prier, pas pour mes besoins. Ça vient assez naturel pour nous tous, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que je prie? Comment est-ce que j'intercède pour mes voisins, pour mon voisinage et pour le monde. On a ce cours qui s'appelle le cours de prière à transformation. À ce moment, c'est juste en anglais, mais la traduction est presque terminée. Fin janvier, ça va être en français et on va offrir le cours en français plus tard cette année. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir. C'est un cours qu'on peut suivre sur l'Internet, online, avec d'autres personnes, donc des gens un peu partout, pas nécessairement seulement de notre église. Il y a des enseignements, des méditations à chaque jour sur le Notre Père, mais vraiment d'une façon applicable à nos vies. Donc, on réunit avec les gens qui suivent le cours afin d'apprendre un peu plus ensemble et de prier ensemble pendant un bon 10 semaines. C'est facile, on peut le faire à la maison, c'est pas trop coûteux. Ça va être en français. Une bonne chose. Finalement, Marc et moi, on est en train de discuter un peu comment développer un comité de mission ici dans notre église et regarder ensemble les besoins de notre communauté, les besoins physiques, spirituels, émotionnels et pourquoi Dieu nous a placés ici en tant qu'église Oasis. On fait déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut faire mieux avec un peu de réflexion, avec plus de prières stratégiques dans tous ces sens? Donc ça, c'est la première chose. Pensez stratégiquement, planifiez, priez. Deuxième question, identification. Que voulons-nous faire peut-être? Les missionnaires s'efforcent de comprendre la culture et adapter leurs pratiques afin de créer des liens pour communiquer l'Évangile d'une manière significative. Peut-être nous ne pouvons pas aller au Sénégal et faire tout cela comme on a entendu des Aoul il y a quelques semaines, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ici au Québec? Est-ce qu'on peut étudier les cultures autour de nous? On est placé dans un endroit où les nations viennent nous rejoindre. Sommes-nous disposés à renoncer un peu à notre confort pour faire un effort comme Paul pour conduire quelques-uns au salut? Peut-être apprendre quelques phrases dans une langue que vous croisez à chaque jour, juste pour dire bonjour. Ça peut ouvrir des portes de conversation qui va amener à d'autres à conversations spirituelles. Est-ce qu'on peut devenir des étudiants de la culture qui nous entoure afin de mieux interagir avec elle? Ça nécessite un amour et une humilité et aussi une attitude de curiosité et aventure. Juste prenez deux secondes pour réfléchir sur cette question. Qu'est-ce que Dieu t'aimerait que je fasse? Apprendre une nouvelle langue, au moins quelques phrases? Est-ce que je peux étudier la culture un peu plus pour mieux exprimer l'Évangile d'une façon que les gens peuvent comprendre? J'ai aussi une autre suggestion pour vous. En avril, nous avons l'opportunité d'un missionnaire qui a passé un temps significatif dans le Moyen-Orient. Pendant des années, il a travaillé là. Il va venir nous donner un atelier de comment mieux comprendre la mentalité d'Islam. Ça va être une opportunité pour nous d'élargir notre connaissance et de dire, oui, on a plein de personnes. Est-ce que vous savez qu'ici à Montréal, il y a plus de musulmans que des chrétiens évangéliques dans la ville de Montréal? Donc, c'est un grand privilège que nous avons. On dépense des milliers de dollars pour envoyer les gens ailleurs en tant que l'Alliance chrétienne missionnaire. Mais nous avons cette opportunité ici à notre porte. Donc, pourquoi pas prendre le temps pour les mieux comprendre, juste pour avoir des bonnes conversations? La plupart des gens d'un arrière-plan musulman sont très, très ouverts à avoir des discussions spirituelles avec nous. C'est nous qui sont un peu mal à l'aise, c'est pas eux. Donc, prenez le temps pour apprendre. Ça va? OK, risque et audace. Allons-nous surmonter notre peur par le pouvoir de Jésus? Aller plus loin que nos zones de confort. Fais quelque chose pour démontrer l'amour ou de prendre le risque de parler de Jésus à quelqu'un. Je ne veux pas communiquer d'une manière prescriptive, parce que ce qui peut ressembler à un risque pour moi n'est peut-être pas pour toi. Mais écoutons le Saint-Esprit ensemble pour prendre des risques d'inviter les voisins chez nous, peut-être retourner à l'école, prier à haute voix pour quelqu'un au travail. Souvent, on va dire, « Oh, je vais prier pour toi. » Mais si on demande, « Est-ce que je peux prier pour toi comme maintenant? » J'ai fait ça souvent et ça arrive que les gens refusent, mais pas autant que ça. La plupart des gens sont très touchés que quelqu'un prend le temps pour prier pour eux, qu'il s'intéresse à eux. Donc, prenez juste quelques moments pour réfléchir. Comment est-ce que je peux prendre un risque? Qu'est-ce que Dieu peut me demander à faire pendant ce temps de Noël pour aimer les gens autour de moi? Juste demander au Saint-Esprit pour une chose, un pas. Je connais une femme qui est en charge du ministère de défendre la dignité, qui a une grande, avec l'Alliance, qui a une grande influence, même au niveau du gouvernement, pour changer les lois concernant la prostitution au Canada. Mais elle, comment tout ça, et c'est juste incroyable si j'avais le temps de raconter l'influence qu'elle a maintenant, même auprès de notre gouvernement. C'est incroyable. Mais ça a commencé avec un pas de foi très petit. Elle voulait sortir de son zone de confort un petit peu, donc elle a commencé à faire du bénévolat dans une banque d'alimentaire. C'est ça, un food bank? Yeah. À cause de ça, elle a rencontré une femme qui sortait de la prostitution. Et un pas à la fois, Dieu l'a amenée où elle est maintenant. Mais ça commençait simplement à quitter sa maison et aller faire du bénévolat dans une banque alimentaire. Donc, on ne sait jamais, on a des grandes idées, ce qu'on veut faire pour le Seigneur, mais ça commence avec un simple pas de foi dans une direction positive. Le Saint-Esprit vous parle. Il est capable de vous communiquer. Demande-lui une chose, Saint-Esprit, juste une chose que je peux faire pendant ce temps de Noël. Et faites-le. Et voir ce qui va se passer. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Finalement, soyez ouverts et recherchez le pouvoir de Dieu. Réalisons-nous que nous ne pouvons pas faire ce travail de missionnaire de notre propre pouvoir. Nous avons besoin d'une intervention miraculeuse de Dieu. Il est en mission. Nous le rejoignons et nous obtenons son pouvoir quand on le fait. Les anges, les amis, ce n'est pas juste pour chanter pour Noël. C'est des messagers, des serviteurs de Dieu qui nous aident dans cette bataille pour communiquer au monde que Jésus est ici pour nous sauver. Ils sont réels et on a l'opportunité de faire partenariat avec eux. La guérison, ce n'est pas seulement pour notre bien-être en tant que chrétien. C'est pour démontrer le pouvoir de Dieu à ceux et celles qui nous entourent. Est-ce qu'on peut avoir ce type de foi? J'ai déjà essayé Des fois, j'ai prié, rien ne s'est passé. Une fois, le Seigneur m'a dit, avant d'aller dans un centre d'achat, qu'il y avait un homme là pour lequel je devrais prier. C'était à la fin de la soirée, tous les magasins fermés. Je le voyais loin, je savais que c'était lui que je devais prier pour. Donc, moi et j'étais avec une autre femme, on est allé vite le rejoindre pour prier pour lui. Il avait un problème au genou. Et on voyait, des fois les gens sont juste polis et on peut prier pour eux et ils veulent que, you know, ils veulent continuer leur chemin. Donc, oh merci, merci. Mais là, on voyait dans ses yeux comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Là, ça fait plus mal. Comme là, là, Dieu a guéri cet homme d'une manière puissante. Pas pour moi, pour lui. Pour lui, de démontrer son amour. On avait toute cette opportunité, il était ouvert à ce moment-là pour entendre la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus l'aimait. Une autre fois, j'étais dans le traversier entre Lévis et Québec et je voyais une femme qui, c'était assez évident qu'elle avait le cancer. Et comme moi, j'ai passé par là, j'ai demandé au Seigneur, c'est quoi le nom de cette femme? Et le Saint-Esprit m'a dit son nom. Mais j'avais besoin de prendre ce risque pour aller voir la femme et dire, je crois que Dieu m'a dit ton nom. Et est-ce que ça se peut que ça, si je me souviens, c'était Huguette, je pense. Est-ce que ça, c'est ton nom? Oui. Et là, j'avais toute une opportunité pour prier pour elle, pour le cancer. Et sa foi était toute comme illuminée, n'est-ce pas? Comme si Dieu a donné à cette femme mon nom, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut me guérir? Le miraculeux est réel. Et c'est là, le pouvoir de Dieu est là pour nous aider dans notre témoignage pour lui. Pas juste pour nous. Oui, il y a cet aspect-là. Dieu fait plein de miracles dans nos vies. Mais si on veut voir vraiment la grandeur, la gloire de Dieu dans le surnaturel, il faut prendre le risque pour sortir de notre église, sortir de notre bâtiment et prendre ces risques afin de parler de son amour aux gens autour de nous. J'ai une prière pour nous. Si on commençait à appliquer ces choses-là d'une façon réelle, pratique, au quotidien, quelles seront nos discussions dans un an dans notre église? Comment est-ce que ça peut changer notre église locale? Rêvez avec moi un peu ce que Dieu peut faire entre nous. Nous et par nous dans notre communauté. Est-ce qu'il peut commencer à changer l'atmosphère ici à Pierrefonds, Roxborough, à Cloverdale, à Montréal et même le Québec? Est-ce que vous voulez faire partie d'un mouvement comme ça, de voir la gloire de Dieu? Jésus est venu comme homme afin qu'on voit la gloire de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas juste il y a 2000 ans qu'on voyait la gloire de Dieu. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. On peut le voir encore. Encore. Donc, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous êtes à l'aise qu'on tourne les uns vers les autres et juste prendre... Est-ce qu'on a le temps? Je sais qu'il y a une chose qui reste, Marc. De juste prendre 2 minutes de prier, au lieu que moi je prie pour vous, mais que vous tournez vers la personne à côté, de ton côté, et juste prier pour les risques, pour cet amour, pour cette foi dans le miraculeux de Dieu. Prenez juste 2 minutes et moi je vais terminer par la prière après. Prions ensemble. Jésus, je te remercie que tu es venu, que tu t'identifies avec nous complètement en tant qu'humaine, afin qu'on puisse voir ta gloire. Merci, Jésus. Et je prie pour cette Église, j'ai tellement d'espérance que tu veux faire des grandes choses à travers nous, des plus grandes choses qu'on n'a jamais vues, Seigneur. Viens nous aider, être en mission avec toi, de saisir cet enseignement que tu es venu pour nous et que tu nous envoies maintenant pour le monde. Viens, transforme-nous, Jésus. Transforme-nous, Saint-Esprit. Je prie tout ça dans ton nom, Jésus. Amen. Donc, Maritza, la deuxième clé, c'est être en mission avec tes filles. Quand vous êtes en mission, la vie chrétienne devient excitante.